Émile Zola. Madeleine Ferrat. À Édouard Manet. Le jour où, d'une voix indignée, j'ai pris la défense de votre talent, je ne vous connaissais pas. Il s'est trouvé des sots qui ont osé dire alors que nous étions deux compères en quête de scandale. Puisque les sots ont mis nos mains l'une dans l'autre, que nos mains restent unies à jamais. La foule a voulu mon amitié pour vous. Cette amitié est aujourd'hui entière et durable, et je désire vous en donner un témoignage public en vous dédiant cette œuvre. Émile Zola, 1er septembre 1868. Chapitre 1. Guillaume et Madeleine descendirent de wagon à la station de Fontenay. C'était un lundi, le train se trouvait presque vide. 5 ou 6 compagnons de voyage, des habitants du pays qui rentraient chez eux, se présentèrent à la barrière avec les jeunes gens et s'en allèrent chacun de son côté sans donner un coup d'œil aux horizons, en gens pressés de regagner leur logis. Au sortir de la gare, le jeune homme offrit son bras à la jeune femme, comme s'ils n'avaient pas quitté les rues de Paris. Ils tournèrent à gauche et remontèrent doucement la magnifique allée d'arbres qui va de Sceaux à Fontenay. Tout en montant, ils regardaient, au bas du talus, le train qui se remettait en marche, avec des hoquets sourds et profonds. Quand le train fut perdu au milieu des feuillages, Guillaume se tourna vers sa compagne et lui dit avec un sourire « Je vous ai prévenu, je ne connais pas du tout le pays et je ne sais pas trop où nous allons. » « Prenons ce sentier, » répondit simplement Madeleine. « Il nous évitera de traverser les rues de Sceaux. » Ils prirent la ruelle des Champs-Girards. Là, brusquement, le rideau d'arbres de la grande allée s'ouvre et laisse voir le coteau de Fontenay. En bas, il y a des jardins, des carrés de prairies dans lesquels se dressent, droits et vigoureux, d'énormes bouquets de peupliers. Puis des cultures montent, coupant les terrains en bandes brunes et vertes, et tout en haut, au bord de l'horizon, blanchissent, à travers les feuilles, les maisons basses du village. Vers la fin septembre, entre 4 et 5 heures, le soleil, en s'inclinant, rend adorable ce bout de nature. Les jeunes gens, seuls dans le sentier, s'arrêtèrent instinctivement devant ce coin de terre d'une verdure presque noire, à peine dorée par les premières rousseurs de l'automne. Ils se donnaient toujours le bras. Il y avait entre eux cette vague gêne d'une intimité récente qui a marché trop vite. Lorsqu'ils venaient à songer qu'ils se connaissaient depuis 8 jours au plus, ils éprouvaient une sorte de malaise à se trouver ainsi, seul à seul, en plein champ, comme des amants heureux. Se sentant encore étrangers et forcés de se traiter en camarades, ils osaient à peine se regarder. Ils ne se parlaient qu'en hésitant, par crainte de se blesser sans le vouloir. Ils étaient l'inconnu l'un pour l'autre, l'inconnu qui effraie et qui attire. Dans leurs allures lentes d'amoureux, dans leurs paroles vides et douces, même dans les sourires qu'ils échangeaient dès que leurs yeux se rencontraient, on lisait l'inquiétude et l'embarras de deux êtres qu'un hasard marie brutalement. Jamais Guillaume n'aurait cru souffrir autant de sa première aventure, et il en attendait le dénouement avec une véritable angoisse. Il s'était remis à marcher, jetant des coups d'œil sur le coteau, coupant leur silence par une conversation à bâtons rompus, où ils ne mettaient rien de leurs vraies pensées, et où il était question des arbres, du ciel, du paysage qui s'étendait devant eux. Madeleine touchait à sa 20e année. Elle portait une toilette très simple, d'étoffe grise, relevée par une garniture de rubans bleus. Un petit chapeau de paille rond coiffait ses admirables cheveux d'un roux ardent aux reflets fauves, qui se tordait et se massait en un énorme chignon derrière sa tête. C'était une grande et belle fille, dont les membres souples et forts annonçaient une rare énergie. Le visage était caractéristique. Le haut avait une solidité, presque une dureté masculine. La peau se tendait fortement sur le front. Les tempes, le nez et les pommettes accusaient les rondeurs de la charpente osseuse, donnant à la figure le froid et la fermeté d'un marbre. Dans ce masque sévère, les yeux s'ouvraient, larges, d'un vert grisâtre et mat, qu'un sourire éclairait par moments de lueur profonde. Le bas du visage, au contraire, était d'une délicatesse exquise. Il y avait de voluptueuses mollesses dans l'attache des joues, aux deux coins de la bouche, où se creusaient de légères fossettes. Sous le menton, mince et nerveux, se trouvait une sorte de renflement qui allait s'attacher au cou. Les traits n'étaient plus tendus et rigides, ils étaient gras, mobiles, couverts d'un duvet soyeux. Ils avaient mille petits plans flexibles et devenaient d'une finesse adorable à certains endroits où le duvet manquait. Au milieu, les lèvres un peu fortes, d'un rose vif, paraissaient trop rouges pour ce visage blanc, à la fois sévère et enfantin. Cette étrange physionomie était faite en effet d'austérité et de puérilité. Quand le bas dormait, quand les lèvres se pinçaient dans les moments de réflexion ou de colère, on ne voyait que le front dur, l'arête nerveuse du nez, les yeux mats, le masque solide et énergique. Puis, dès qu'un sourire ouvrait la bouche, le haut semblait s'adoucir, on n'apercevait plus que les lignes molles des joues et du menton. On eût dit le rire d'une petite fille dans le visage d'une femme faite. Le teint était d'une blancheur laiteuse et transparente, à peine taché de quelques grains de rousseur vers les angles des tempes. Sous l'épiderme satiné, le sang coulait, bleuissant la peau. Souvent, l'expression ordinaire de Madeleine, une sorte d'orgueil rude, se fondait brusquement dans un regard d'une ineffable tendresse, d'une tendresse de femme faible et vaincue. Un coin de son être était resté enfant. Tandis qu'elle suivait les trois sentiers au bras de Guillaume, elle avait des gravités qui accablaient singulièrement le jeune homme, et de subits abandons, des soumissions involontaires qui lui rendaient l'espérance. À sa démarche ferme, légèrement cadencée, on devinait qu'elle avait cessé d'être jeune fille. Guillaume avait 5 ans de plus que Madeleine. C'était un garçon grand et maigre, d'allure aristocratique. Son visage long, aux traits amincis, eût été laid sans la pureté du teint et la hauteur du front. Toute sa physionomie annonçait le fils intelligent et affaibli d'une forte race. Il avait par moments de brusques tressaillements nerveux et paraissait d'une timidité d'enfant. Légèrement courbé, il parlait avec des gestes hésitants, interrogeant Madeleine du regard avant d'ouvrir les lèvres. Il craignait de déplaire. Il tremblait que sa personne, que son attitude et sa voix ne fussent désagréables. Se défiant toujours de lui-même, il se montrait humble et caressant. Puis, quand il se croyait méconnu, des élans de fierté le redressaient. La fierté était toute sa force. Il aurait peut-être commis des lâchetés s'il n'y avait eu en lui un orgueil inné, une susceptibilité nerveuse qui le faisait se roidir contre tout ce qui blessait ses délicatesses. C'était un de ces êtres aux sentiments tendres et profonds qui ont des besoins cuisants d'amour et de tranquillité et qui s'endorment volontiers dans une douceur éternelle. Ces êtres, d'une sensibilité de femme, oublient aisément le monde pour se réfugier au fond de leur propre cœur, dans la certitude de leur noblesse, dès que le monde les mêle à ses hontes et à ses misères. Si Guillaume se perdait dans les sourires de Madeleine, s'il éprouvait une joie exquise à regarder son teint nacré, il lui venait parfois, à son insu, un pli de dédain aux lèvres quand la jeune femme lui jetait un coup d'œil froid, presque moqueur. Les jeunes gens avaient tourné le coude que fait le chemin des Champs Girards et se trouvaient dans une ruelle qui s'allonge entre deux murailles grises d'une monotonie désespérante. Ils pressèrent le pas pour sortir de ce corridor étroit. Puis ils continuèrent leur promenade à travers champs par des sentiers à peine frayés. Ils passèrent au pied du coteau où se dressent les énormes châtaigniers de Robinson et arrivèrent à Aunay. Cette course rapide avait fouetté leur sang. Leur esprit s'était détendu aux tiédeurs du soleil, dans l'air libre qui leur soufflait à la face des bouffées âpres et chaudes. L'état tacite de guerre où ils étaient en descendant de wagon avait peu à peu fait place à une familiarité de bons camarades. Ils oubliaient les raideurs de leur caractère. La campagne les pénétrait d'un tel bien-être qu'ils ne songeaient plus à s'observer ni à se défendre l'un contre l'autre. À Aunay, ils s'arrêtèrent un instant à l'ombre des grands arbres qui entretiennent en ce lieu une éternelle fraîcheur. Ils avaient eu chaud au soleil, ils sentaient avec délice le froid des feuillages leur tomber sur les épaules. Quand ils eurent repris haleine, « Du diable si je sais où nous sommes !» s'écria Guillaume. « Mange-t-on au moins dans ce pays ?»« Oui, ne craignez rien !» reprit gaiement Madeleine. « Nous serons à table dans une demi-heure. Venez par ici. » Elle l'entraîna vivement vers l'allée bordée de palissades qui conduit sur le plateau. Là, elle quitta son bras, se mit à courir comme un jeune chien pris de folie joyeuse. Toute sa puérilité se réveillait en elle. Elle redevenait petite fille dans l'ombre fraîche, dans le silence frissonnant des arbres. Ses sourires éclairaient sa face entière et mettaient des transparences lumineuses dans ses yeux gris. Les grâces enfantines de ses joues et de ses lèvres adoucissaient les lignes dures de son front. Elle allait puis revenait en laissant échapper des éclats de gaieté, tenant ses jupes à poignées, faisant un grand bruit d'étoffe froissée et laissant derrière elle un vague parfum de violette. Guillaume la regardait avec béatitude. Il avait oublié la femme froide et orgueilleuse. Il se sentait à l'aise. Il s'abandonnait à ses tendresses pour cette grande enfant qui s'enfuyait en l'appelant et qui, tout d'un coup, se tournait, accourait se pendre à son épaule, lasse, caressante. À un endroit, le chemin a coupé une butte de sable. Le sol est couvert d'une fine poudre dans laquelle le pied enfonce. Madeleine prit plaisir à choisir les places les plus molles. Elle poussait de petits cris aigus en sentant ses bottines disparaître. Elle s'efforçait de faire de grandes enjambées et elle riait de ne pouvoir avancer, retenue par le terrain mouvant. Une fille de 12 ans aurait joué ainsi. Puis le chemin monte avec des brusques détours entre des buttes boisées. Ce bout du vallon a un aspect solitaire et sauvage qui surprend au sortir des frais ombrages d'Aunay. Quelques rochers percent la terre, les herbes des talus sont roussies par le soleil. De grandes ronces traînent dans les fossés. Madeleine vint prendre en silence le bras de Guillaume. Elle était lasse. Elle éprouvait un sentiment indéfinissable sur cette route pierreuse et déserte, d'où l'on ne voyait pas une maison, et qui tournait dans une sorte de trou sinistre. Encore frissonnante de ses jeux et de ses rires, elle s'abandonnait. Guillaume sentait son bras tiède presser le sien. À ce moment, il comprit que cette femme lui appartenait, qu'il y avait en elle, sous l'implacable énergie du cerveau, un cœur faible ayant des besoins de caresses. Quand elle levait les yeux vers lui, elle le regardait avec une humilité tendre, avec des sourires humides. Elle se faisait souple, coquette. Elle avait l'air de quêter l'amour du jeune homme comme une pauvre honteuse. La fatigue, les voluptés des ombrages, le réveil de sa jeunesse, le lieu sauvage qu'elle traversait, tout mettait dans son être une émotion amoureuse, une de ces langueurs des sens qui font tomber au bras d'un homme les femmes les plus fières. Guillaume et Madeleine montaient à petits pas. Parfois, le pied de la jeune femme glissait sur une pierre, et elle se retenait à l'épaule de son compagnon. C'était autant de caresses, ni l'un ni l'autre ne s'y trompaient. Ils ne parlaient plus, ils se contentaient d'échanger des sourires. Ce langage leur suffisait pour traduire l'unique sentiment qui emplissait leur cœur. Le visage de Madeleine était adorable sous l'ombrelle. Il avait une pâleur tendre, avec des ombres d'un gris argenté. Autour de la bouche, des lueurs roses couraient, et il y avait là, au coin des lèvres, du côté de Guillaume, un petit réseau de veines bleuâtres, d'une telle délicatesse qu'il prenait à ce dernier des envies folles de poser un baiser à cette place. Il était timide, il hésita jusqu'au haut de la montée. Là, en voyant tout d'un coup le plateau s'étendre devant eux, il sembla aux jeunes gens qu'ils n'étaient plus cachés. Bien que la campagne fût déserte, ils eurent peur de cette large étendue. Ils se séparèrent, inquiets, embarrassés de nouveau. La route suit le bord de la hauteur. À gauche se trouvent des carrés de fraisiers, des champs de blé immenses et nus qui se perdent à l'horizon, plantés d'arbres rares. Au fond, le bois de verrière fait une ligne noire qui semble border le ciel d'un ruban de deuil. Des pentes se creusent à droite, découvrant plusieurs lieux de pays. Ce sont d'abord des terrains noirs et bruns, des masses puissantes de feuillage. Puis les teintes et les lignes deviennent vagues. Le paysage se perd dans un air bleuâtre, terminé par des collines basses dont le violet pâle se fond avec le jaune tendre du ciel. C'est une immensité, une véritable mer de coteaux et de vallons que pique de loin en loin la note blanche d'une maison, le jet sombre d'un bouquet de peupliers. Madeleine s'arrêta, grave et songeuse, devant cette immensité. Des souffles chauds couraient, un orage montait lentement du fond de la vallée. Le soleil venait de disparaître derrière une vapeur épaisse, et de tous les points de l'horizon grandissaient de lourds nuages d'un gris cuivré. La jeune femme avait repris sa physionomie dure et muette. Elle semblait avoir oublié son compagnon. Elle regardait le pays avec une attention curieuse, comme une vieille connaissance. Puis ses yeux se fixèrent sur les nuages sombres, et elle parut rêver à de cuisants souvenirs. Guillaume, debout à quelques pas d'elle, l'examinait, pris de malaise. Il sentait qu'un abîme se creusait à chaque instant entre elle et lui. À quoi pouvait-elle rêver ainsi? Il souffrait de n'être pas tout pour cette femme. Il se disait, avec une secrète frayeur, qu'elle avait vécu 20 ans sans lui. Ces 20 années lui paraissaient d'un noir terrible. À coup sûr, elle connaissait le pays. Elle y était peut-être venue jadis avec un amant. Guillaume mourait d'envie de la questionner, mais il n'osa le faire avec franchise. Il craignit de recevoir une réponse sincère qui blessât son amour. Il ne put cependant s'empêcher de demander en hésitant « Vous êtes venue quelquefois ici, Madeleine ?»«
Oui, »
répondit-elle d'une voix brève,
« plusieurs fois.
Hâtons-nous, il pourrait pleuvoir. » Ils se remirent en marche, à quelque distance l'un de l'autre, perdus chacun dans ses pensées. ils arrivèrent ainsi au chemin de ronde. Là, à la lisière du bois, se trouve le restaurant où Madeleine conduisait son compagnon. C'était une laide bâtisse carrée que les pluies ont crevassée et noircie. Sur le derrière, du côté du bois, une haie vive enclôt une sorte de cour plantée d'arbres maigres. 5 ou 6 bosquets couverts de houblon s'appuient contre cette haie. Ce sont les cabinets particuliers du cabaret. Des tables et des bancs de bois grossiers s'y allongent, fixés dans la terre. Sur les planches des tables, les culs des verres ont laissé des ronds rougeâtres. L'hôtesse, une grosse femme commune, poussa un cri de surprise en voyant Madeleine. « Ah, bien » cria-t-elle. « Je vous croyais morte. Il y a plus de 3 mois qu'on ne vous a vue. Vous vous portez bien ?» À ce moment, elle aperçut Guillaume et retint une autre question qu'elle avait sur les lèvres. Elle parut même décontenancée par la présence de ce jeune homme qui lui était inconnu. Ce dernier vit son étonnement et se dit qu'elle s'attendait sans doute à un autre visage. « Bien, bien !» reprit-elle en se faisant moins familière. « Vous voulez dîner, n'est-ce pas ? On va dresser votre couvert dans un bosquet. » Madeleine avait reçu tranquillement les marques d'amitié de la cabaretière. Elle défit son châle, ôta son chapeau et alla porter le tout dans une chambre du rez-de-chaussée qu'on louait à la nuit aux Parisiens attardés. Elle paraissait chez elle. Guillaume était entré dans la cour. Il se promena çà et là, assez embarrassé de ses membres. Personne ne faisait attention à lui, tandis que la laveuse de vaisselle et le chien lui-même fêtaient Madeleine. Quand celle-ci revint, elle avait retrouvé son sourire. Elle s'arrêta un instant sur le seuil, sa chevelure, libre et nue, flambait dans un dernier rayon de soleil, donnant une blancheur de marbre à sa peau. Sa poitrine et ses épaules, débarrassées du châle, avaient une largeur puissante et des souplesses exquises. Le jeune homme jeta un regard, plein d'une admiration inquiète, sur cette belle créature frémissante de vie. Un autre, sans doute, l'avait vue ainsi souriante sur le seuil de cette porte. Dans le malaise que lui causait cette pensée, il éprouvait un désir violent d'aller prendre Madeleine entre ses bras, de la serrer contre sa poitrine pour qu'elle oubliât cette maison, cette cour, ces bosquets, et ne songeât qu'à lui. « Dînons vite !» cria joyeusement la jeune femme. « Hé, Marie, cueillez un gros saladier de fraises. J'ai une faim !» Elle oubliait Guillaume. Elle regarda dans chaque bosquet, cherchant le couvert. Quand elle aperçut la nappe, « Ah non, par exemple » dit-elle. « Je ne m'assoirai pas sur ce banc-là. Je me rappelle qu'il est couvert de grands clous qui m'ont déchiré une robe. Mettez le couvert ici, Marie. » Elle s'installa devant la nappe blanche sur laquelle la servante n'avait pas encore eu le temps de poser les assiettes. Alors elle se souvint de Guillaume. Elle l'aperçut debout à quelques pas. « Eh bien !» lui dit-elle. « Vous ne venez pas vous mettre à table ? Vous vous tenez là comme un cierge !» Elle éclata de rire. L'orage qui montait lui donnait une gaieté nerveuse. Elle avait des gestes secs, des paroles brèves. Le temps orageux, au contraire, accablait Guillaume, qui s'affaissait, les membres brisés, ne répondant que par monosyllabes. Le dîner dura plus d'une heure. Les jeunes gens étaient seuls dans la cour. Pendant la semaine, les restaurants de la banlieue restent vides. Madeleine parla tout le temps. Elle parla de son enfance, de son séjour dans un pensionnat d'éterne, racontant avec 1000 détails les ridicules des sous-maîtresses et les espiègleries des enfants. Elle fut intarissable sur ce sujet, trouvant toujours au fond de ses souvenirs quelque bonne histoire qui la faisait rire à l'avance. Elle racontait tout cela avec des mines enfantines, avec des fils et de voix de petite fille. À plusieurs reprises, Guillaume essaya de l'attirer sur un passé moins lointain. Comme ces malheureux qui souffrent et qui sont toujours tentés de porter la main à leurs blessures, il aurait voulu l'entendre parler de sa vie d'hier, de sa vie de jeune fille et de femme. Il inventait des transitions habiles pour la forcer à lui apprendre dans quelles circonstances elle avait déchiré une robe en dînant sous un de ses bosquets. Mais Madeleine éludait les questions, se replongeait avec une sorte d'entêtement dans les naïves histoires de son premier âge. Cela paraissait la soulager, détendre ses nerfs, lui faire accepter plus naturellement son tête-à-tête avec un garçon qu'elle connaissait depuis 8 jours à peine. Lorsque Guillaume la regardait avec des yeux où passaient des lueurs de désir, lorsqu'il avançait la main pour frôler la sienne, elle prenait un plaisir étrange à ne point baisser les paupières et à commencer ainsi une anecdote. « J'avais alors 5 ans !» Vers la fin du dîner, comme ils étaient au dessert, de grosses gouttes de pluie mouillèrent la nappe. Le jour était brusquement tombé, le tonnerre grondait au loin et se rapprochait avec le fracas sourd et continu d'une armée en marche. Un large éclair violet courut sur la nappe blanche. « Voici l'orage !» dit Madeleine. « Oh, j'aime les éclairs !» Elle se leva et alla au milieu de la cour pour mieux voir. Guillaume était resté assis sous le bosquet. Il souffrait. Un orage lui causait une étrange épouvante. Son esprit demeurait ferme, il n'avait point peur d'être foudroyé. Mais toute sa chair se révoltait au bruit de la foudre, surtout aux lueurs aveuglantes des éclairs. Quand un éclair lui brûlait les yeux, il lui semblait recevoir un coup violent dans la poitrine. Il éprouvait une angoisse dans l'estomac qui le laissait frémissant, éperdu. C'était là un simple phénomène nerveux. Mais cela ressemblait à de la crainte, à de la lâcheté. Et Guillaume était désolé de paraître poltron devant Madeleine. Il avait mis la main sur ses yeux. Enfin, ne pouvant lutter contre la rébellion de tous ses nerfs, il appela la jeune femme. Il lui demanda, d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme, et s'il n'était pas plus prudent d'aller achever leur dessert dans l'intérieur du restaurant. « Mais il ne pleut presque pas !» répondit Madeleine. « Nous pouvons rester encore !»« Je préférerais rentrer, » reprit-il en hésitant. « La vue des éclairs me fait mal !» Elle le regarda d'un air étonné. « Ah !» dit-elle simplement. « Rentrons alors !» Une servante porta le couvert dans la salle commune du cabaret, une grande pièce nue, aux murs noircis, qui avait pour tout meuble des tables et des bancs. Guillaume s'assit, le dos tourné aux fenêtres, devant une assiette de fraises à laquelle il ne toucha pas. Madeleine acheva ses fraises vivement, puis se leva et alla ouvrir une fenêtre qui donnait sur la cour. Là, elle s'accouda. Elle regarda le ciel en feu. L'orage éclatait avec une violence inouïe. Il s'était arrêté au-dessus du bois, écrasant l'air sous le poids brûlant des nuages. La pluie avait cessé, quelques souffles de vent brusque échevelaient les arbres. Les éclairs se succédaient avec une telle rapidité qu'il faisait jour dehors, un jour bleuâtre qui donnait à la campagne un air de décor de mélodrame. Les coups de tonnerre ne roulaient pas dans les échos de l'air et de la vallée. Ils avaient la sécheresse et la netteté de détonations d'artillerie. La foudre devait frapper les arbres autour du cabaret. Entre chaque décharge, il y avait un silence effrayant. Guillaume éprouvait une anxiété cuisante à la pensée qu'une fenêtre était ouverte derrière son dos. Malgré lui, par une sorte de mouvement nerveux, il tournait la tête. Il apercevait Madeleine toute blanche dans la lumière violette des éclairs. Ses cheveux roux que la pluie avait mouillés dans la cour retombaient sur ses épaules, s'enflammant à chaque clarté brusque. « Oh, que c'est beau !» cria-t-elle. « Venez donc voir, Guillaume. Il y a un arbre là-bas qui semble tout en flammes. On dirait que les éclairs courent sous le bois comme des bêtes échappées. Et le ciel ?» « Ah, bien, c'est un fameux feu d'artifice !» Le jeune homme ne put résister davantage à l'envie folle qu'il avait d'aller fermer les volets. Il se leva. « Voyons, » dit-il avec impatience, « fermez la fenêtre, c'est dangereux ce que vous faites là. » Il s'avança et toucha le bras de Madeleine. Celle-ci se tourna à demi. « Vous avez donc peur ?» lui dit-elle. Et elle eut un rire gras, un de ces rires méprisants de femme qui se moque. Guillaume baissa la tête. Il hésita un instant à aller reprendre sa place devant la table. Puis, vaincu par son angoisse, « Je vous en prie, » balbutia-t-il. À ce moment, les nuages crevaient, des torrents d'eau tombaient du ciel. Un ouragan se leva qui poussa un flot de pluie dans la salle. Madeleine se décida à fermer la fenêtre. Elle revint s'asseoir en face de Guillaume. Au bout d'un silence, « Quand j'étais petite, » dit-elle, « mon père me prenait dans ses bras les jours d'orage et me portait à la fenêtre. Je me rappelle que les premières fois, je me cachais la face contre son épaule. Puis cela m'a amusée de voir les éclairs. « Vous avez peur, vous ?» Guillaume leva la tête. « Je n'ai pas peur, » répondit-il doucement. « Je souffre. » Le silence se fit de nouveau. L'orage continuait avec des éclats terribles. Pendant près de 3 heures, le tonnerre gronda. Guillaume resta tout ce temps-là sur sa chaise, affaissé, inerte, le visage pâle et défait. Madeleine, en voyant ses tressaillements nerveux, avait fini par comprendre qu'il souffrait réellement. Elle le regardait avec un intérêt mêlé de surprise, étonnée qu'un homme eût des nerfs plus délicats qu'une femme. Ces 3 heures furent pour les jeunes gens d'une longueur désespérante. Ils échangèrent à peine quelques mots. Leur dîner d'amoureux s'achevait étrangement. Enfin, le tonnerre s'éloigna. La pluie tomba plus fine. Madeleine alla ouvrir la fenêtre. « C'est fini, » dit-elle. « Venez, Guillaume, il n'y a plus d'éclairs. » Le jeune homme, soulagé, respirant à l'aise, vint s'accouder auprès d'elle. Ils restèrent là un moment, puis elle tendit la main au dehors. « Il ne pleut presque plus, » reprit-elle. Il nous faut partir si nous ne voulons pas manquer le dernier train. » La cabaretière entrait dans la salle. « Vous couchez ici, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Je vais préparer votre chambre. »« Non, non !» répondit vivement Madeleine. « Nous ne couchons pas ici, je ne veux pas. Nous n'étions venus que pour dîner, n'est-ce pas, Guillaume ? Nous allons partir. »
« Mais c'est impossible ! Les chemins sont impraticables à cette heure !» « Vous n'arriverez jamais !»
La jeune femme paraissait très agitée. Elle se débattait, elle répétait « Non, je veux m'en aller. Nous ne devions pas rester la nuit. »«
Faites comme vous voudrez, » reprit l'hôtesse. « Seulement, si vous vous hasardez dehors, au lieu de coucher à l'abri, vous coucherez dans la campagne. Voilà tout. »
Guillaume ne disait rien. Il se contentait de regarder Madeleine d'une façon suppliante. Celle-ci évitait de rencontrer ses regards. Elle allait et venait d'un pas fiévreux, en proie à une lutte violente. Elle finit, malgré sa ferme intention de ne point le regarder, par lever les yeux sur son compagnon. Elle le vit si humble, si soumis devant elle, que sa volonté s'amollit. Il y eut un échange de regards qui la brisa. Elle fit encore quelques pas, le front dur, la face froide, puis, d'une voix nette et brève, « Soit, » dit-elle à la cabaretière, « nous coucherons ici. »«
Alors, je vais préparer la chambre bleue. »
Madeleine eut un brusque mouvement. « Non, pas celle-là, une autre, » reprit-elle d'un ton étrange.
« C'est que toutes les autres sont occupées !»
La jeune femme hésitait encore. Un nouveau combat se livrait en elle. Elle murmura « Nous ferions mieux de partir. » Mais elle rencontra une seconde fois le regard suppliant de Guillaume. Elle céda. Pendant qu'on mettait des draps au lit, les jeunes gens sortirent du restaurant. Ils allèrent s'asseoir sur le tronc d'un arbre abattu qui gisait dans un pré à l'entrée du bois. La campagne respirait au loin, dans la fraîcheur de la pluie. Des souffles froids traversaient l'air tiède encore, où traînaient des senteurs âcres de verdure et de terre mouillée. Des bruits étranges s'élevaient sous le bois, des bruits de feuilles qui s'égouttaient, de gazon qui buvait l'eau tombée. C'était un frisson universel, ce frisson voluptueux des champs dont un orage a abattu la poussière. Et ce frisson qui courait dans la nuit noire prenait aux ténèbres leur charme mystérieux et pénétrant. Une moitié du ciel, d'une sérénité exquise, était étoilée. L'autre moitié se trouvait encore couverte d'un rideau sombre de nuages qui se retirait lentement. Les deux jeunes gens, assis côte à côte sur le tronc d'arbre, ne pouvaient distinguer leur visage. Ils s'apercevaient vaguement, dans l'ombre épaisse, qu'un bouquet de grands arbres jetait sur eux. Ils restèrent là quelques minutes, sans parler. Ils entendaient leurs pensées. Ils n'avaient que faire de les dire à haute voix. « Vous ne m'aimez pas, Madeleine, » murmura enfin Guillaume. « Vous vous trompez, mon ami, » répondit lentement la jeune femme. « Je crois que je vous aime. Seulement, je n'ai pas eu le temps de m'interroger et de me répondre. J'aurais voulu attendre encore. » Il y eut un nouveau silence. La fierté du jeune homme souffrait. Il aurait désiré que son amante tombât dans ses bras d'elle-même, qu'elle n'y fût pas poussée par une sorte de fatalité. « Ce qui me désespère, » reprit-il d'une voix basse, « c'est de vous devoir au hasard. Vous n'auriez point consenti à rester, n'est-ce pas, si les chemins avaient été praticables ?»« Oh, vous ne me connaissez pas !» s'écria Madeleine. « Si je reste, c'est que je le veux. Je me serais en allé au plus fort de l'orage plutôt que de demeurer ici contre ma volonté. » Elle se prit à rêver. Puis, d'un accent vague, comme si elle se fût parlé à elle-même, « Je ne sais ce qui m'arrivera plus tard, » dit-elle. « Je me crois capable de vouloir, mais il est si difficile de mener sa vie. » Elle s'arrêta. Elle allait avouer à Guillaume qu'un étrange sentiment de compassion l'avait seule décidée à rester. Les femmes succombent plus souvent qu'on ne croit, par pitié, par besoin d'être bonnes. Elle avait vu le jeune homme si frémissant pendant l'orage. Il la regardait avec des yeux si humides qu'elle ne s'était pas sentie la force de se refuser à lui. Guillaume comprit qu'elle se donnait presque comme une aumône. Toutes ses susceptibilités se réveillèrent. Un amour offert de cette façon le blessa dans son orgueil. « Vous avez raison, » reprit-il. « Nous devons attendre encore. Voulez-vous que nous partions ? Maintenant, c'est moi qui vous demande de rentrer à Paris. » Il parlait d'un ton fiévreux. Madeleine s'aperçut de l'altération de sa voix. « Qu'avez-vous donc, mon ami ? » demanda-t-elle avec surprise. « Partons, » répéta-t-il. « Partons, je vous en prie. » Elle eut un geste de découragement. « À quoi bon à présent ? » dit-elle. « Nous en reviendrons là, tôt ou tard. Depuis le jour de notre première rencontre, je sens bien que je vous appartiens. J'avais rêvé de me réfugier dans un couvent. Je m'étais juré de ne pas commettre une seconde faute. Tant que je n'ai eu qu'un amant, j'ai gardé mon orgueil. Aujourd'hui, je comprends que je roule à la honte. Ne m'en veuillez pas d'être franche. » Elle prononça ces mots avec une telle tristesse que les fiertés du jeune homme s'amollirent. Il redevint doux et caressant. « Vous ignorez qui je suis, » dit-il. « Confiez-vous à moi. Je ne ressemble pas aux autres hommes. Je vous aimerai comme ma femme, et je vous rendrai heureuse, je vous le jure. » Madeleine ne répondit pas. Elle croyait avoir l'expérience de la vie. Elle se disait que Guillaume la quitterait un jour et que la honte viendrait. Elle était forte cependant, elle savait qu'elle pouvait résister. Mais elle n'éprouvait aucune envie de résistance malgré les raisonnements qu'elle se tenait. toutes ses résolutions se brisaient dans une heure fatale. Elle était étonnée elle-même d'accepter si aisément ce que la veille encore elle aurait repoussé avec une froide énergie. Guillaume songeait. Pour la première fois, la jeune femme venait de lui parler de son passé, de lui avouer que déjà elle avait eu un amant. Cet amant, dont il retrouvait le souvenir vivant et ineffaçable dans chaque geste, dans chaque parole de sa compagne, lui paraissait se dresser entre eux, maintenant que son ombre avait été évoquée. Les jeunes gens gardèrent le silence pendant longtemps, ayant résolu de s'unir et attendant l'heure du coucher avec une singulière méfiance. Ils se sentaient accablés par des pensées lourdes et inquiètes. Pas un mot d'amour, pas une caresse ne leur montait aux lèvres. S'ils avaient parlé, ils se seraient dit leur malaise. Guillaume tenait la main de Madeleine, mais cette main restait glacée, inerte dans la sienne. Jamais il n'aurait cru que sa première causerie d'amour serait si pleine d'anxiété. La nuit les enveloppait, son amante et lui, de son ombre et de son mystère. Ils étaient seuls, séparés du monde, perdus dans le charme âpre d'une nuit d'orage, et rien ne battait au fond de leur être que la peur et que l'incertitude du lendemain. Et autour d'eux, la campagne, trempée de pluie, s'endormait lentement, agitée encore par un dernier frisson de volupté. La fraîcheur devenait pénétrante. La senteur âcre de terre et de feuilles mouillées flottait plus lourde, chargée d'ivresse, pareille à l'odeur vineuse qui s'échappe d'une cuve. Il n'y avait plus un seul nuage au ciel, la nappe d'un bleu sombre s'animait du fourmillement vivant d'un peuple d'étoiles. Madeleine eut un frisson subit. « J'ai froid, » dit-elle, « rentrons. » Ils rentrèrent, sans échanger une parole. L'hôtesse les accompagna jusque dans leur chambre et les quitta, en laissant sur le coin d'une table une bougie qui éclairait les murs d'une lueur vacillante. C'était une petite pièce, tapissée d'un ignoble papier à grandes fleurs bleuâtres, que l'humidité avait déteint par larges plaques. Un grand lit de bois blanc, peint en rouge sombre, tenait presque tout le carreau. Un air glacial tombait du plafond. Des odeurs de moisie traînaient dans les coins. Les jeunes gens frissonnèrent en entrant. Il leur sembla qu'on leur jetait des linges mouillés sur les épaules. Ils restèrent silencieux, allant et venant dans la pièce. Guillaume voulut fermer les volets et y travailla longtemps sans pouvoir y parvenir. Un obstacle devait exister quelque part. « Il y a un crochet en haut !» dit Madeleine malgré elle. Guillaume la regarda en face d'un mouvement instinctif. Ils devinrent très pâles l'un et l'autre. Tous deux souffrirent de cet aveu involontaire. La jeune femme connaissait le crochet. Elle avait dormi dans cette chambre. Le lendemain, Madeleine s'éveilla la première. Elle descendit doucement du lit et s'habilla en contemplant Guillaume qui sommeillait encore. Il y avait presque de la colère dans son regard. Une indéfinissable expression de regret passait sur son front dur et grave que le sourire de ses lèvres n'adoucissait pas. Parfois, elle levait les yeux, elle allait du visage de son amant au mur de la pièce, à certaines taches du plafond qu'elle reconnaissait. Elle se sentait seule. Elle ne craignait pas de s'abandonner à ses souvenirs. À un moment, en reportant ses regards sur l'oreiller où reposait la tête de Guillaume, elle tressaillit comme si elle se fût attendue à trouver une autre tête à cette place. Quand elle fut vêtue, elle alla ouvrir la fenêtre, et là, s'accouda, en face de la campagne jaune de soleil. Il y avait près d'une demi-heure qu'elle rêvait, les tempes rafraîchies, le visage détendu par des pensées plus calmes, par des espérances lointaines, lorsqu'un bruit léger la fit se tourner. Le dormeur venait de s'éveiller, les yeux encore gros de sommeil, ayant aux lèvres ce sourire vague de réveil, si doux de reconnaissance au matin d'une nuit d'amour. Il tendit les bras vers la jeune femme qui s'approchait. « M'aimes-tu ? » lui demanda-t-il d'une voix basse et profonde. Madeleine sourit à son tour, de son bon sourire d'enfant tendre et aimante. Elle ne voyait plus la chambre, elle se sentait pénétrée d'une grande douceur par la demande caressante du jeune homme. Elle rendit à Guillaume son baiser.